8h17 sur Europe 1. L'invité politique d'Europe Matin, votre invité Sonia Mabrouk, c'est l'eurodéputé Jordan Bardella, vice-président du Rassemblement National.
Bienvenue à vous et bonjour Jordan Bardella.
Bonjour.
Qui sont les barbares ?
Les barbares, ce sont ceux qui ont lynché à mort Philippe Moglio, ce chauffeur de bus qui a été laissé pour mort à Bayonne parce qu'il a eu le malheur de demander à des passagers de porter leur masque. Ce sont ceux qui ont traîné Axel, cette jeune lyonnaise de 23 ans qui a été traînée sur 800 mètres. Et ce sont tous ceux qui se rendent coupables des une violence gratuite qui sont commises toutes les 44 secondes dans notre pays. Ce sont ceux qui ont commis les 900 agressions par jour qu'il y a eu cet été. Et c'est ceux contre qui, malheureusement, le gouvernement ne fait rien parce que la justice ne fait plus peur aujourd'hui. On voit dans l'actualité le gouvernement pinailler, nier sur l'utilisation du terme ensauvagement, alors qu'il y a une réalité qui est celle que nous décrivons et que le gouvernement a peur d'affronter.
Et vous, que faites-vous ? Pourquoi les députés RN n'ont pas voté une seule mesure, Jordan Bardella, une seule disposition ces dernières années sur les lois sécuritaires ?
Pas une seule, je ne dirais pas cela. Nous en avons voté au Parlement européen, par exemple. Nous avons voté pour le système d'information Schengen, qui permet d'améliorer la transmission d'informations, la coopération policière.
Les
projets de loi qui ont été votés par le Parlement, par la majorité d'Emmanuel Macron, parce qu'ils sont totalement inefficaces. Et encore une fois, l'actualité démontre que toutes les mesures sécuritaires qui ont été prises par Emmanuel Macron étaient des mesures de politesse, soit pour les délinquants, pour les criminels, ou même pour les terroristes.
Attendez, je ne comprends pas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment peut-on dénoncer la barbarie comme vous le faites et ne pas voter une loi renforçant la sécurité et la lutte contre le terrorisme islamiste, comme celle d'octobre 2017, par exemple ?
Les lois qui ont été votées ne renforcent pas la sécurité contre le terrorisme islamiste. On parle du projet de loi de Monsieur Collomb. Ce projet de loi, il est totalement inefficace. Il s'agissait de transposer dans le droit commun des dispositifs qui étaient ceux de l'état d'urgence. En réalité, ça affaiblissait concernant les moyens qu'on donnait à la police et à l'autorité judiciaire. Il s'agissait par exemple de permettre d'assigner à résidence, non pas à résidence un fichier S radicalisé, mais assigné à l'échelle de la commune. Donc il y avait effectivement un certain nombre d'incohérences et puis il n'y avait rien sur le problème de fond.
Non mais Jordan, par exemple, nous sommes en ce moment en plein procès des attentats de Charlie Hebdo en mai 2015, puisque vous êtes précis, vos députés votent contre la loi renseignement qui donne plus simplement de moyens à nos services de renseignement. Comment on peut entendre cela
parce
aujourd'hui?
Parce que c'est faux, parce que les lois qui ont été votées n'ont rien changé.
Voilà. Mais pardon, quand on apporte plus de moyens à nos services de renseignement, vous ne pouvez pas dire que ce n'est pas efficace.
Si, parce qu'il ne faut pas se fier au titre qui est souvent très très joli. On nous dit vous n'avez pas voté le projet de loi anti-terrorisme. S'agissait-il de fermer toutes les mosquées radicales, les mosquées salafistes définitivement dans notre pays? Non. S'agissait-il d'expulser les fichiers S de nationalité étrangère qui sont des gens
signalés lieu pour fermé depuis 2018, dont des lieux de culte, des établissements associatifs, des écoles coraniques, ça ne va peut-être pas assez vite.
S'agissait-il d'expulser? Non, mais je ne suis pas caricatural. On ne peut pas dire que les mosquées radicales ont été fermées aujourd'hui dans notre pays. Il y en a un peu plus de 120 dans notre pays. Il y en a une dizaine qui ont été fermées depuis les attentats de Charlie. S'agissait-il de dissoudre les associations salafistes, les associations politico-religieuses comme l'EOF qui prêchent la haine de l'Occident, qui prêchent la haine de la France dans un certain nombre de mosquées? Non. S'agissait-il de rendre l'armement obligatoire pour les policiers municipaux, par exemple?
Depuis les attentats perpétrés par Mohamed Merah en 2012, aucune disposition, aucune mesure. Aucune votée.
Je peux vous répéter ce que je viens de dire, mais en l'occurrence, les dispositifs qui ont été votés ne permettent en rien d'améliorer la situation dans notre pays. Il y a un peu plus de 20 000 fichiers S aujourd'hui pour radicalisation. Il y en a une bonne partie de ceux-là qui sont étrangers. Ont-ils été expulsés vers leur pays d'origine? Non. Des mesures préventives, comme l'article que nous avions proposé à l'Assemblée nationale, on avait proposé 60 amendements, ils ont tous été refusés. Ça me semblait pourtant être des mesures de bon sens. C'est vrai sur la question de l'immigration aussi. Pardon, mais on nous dit on ne vote pas les mesures qui sont faites en faveur de le contrôle de l'immigration.
Mais de la sécurité de ces du terrorisme, mesures, vous parlez d'immigration.
Oui, parce que ça fait écho au projet de M. Darmanin, qui, si vous voulez, cherche à pointer des contradictions dans notre discours, alors qu'il n'y en a pas. M. Darmanin nous dit on prend des mesures sur l'immigration, vous ne les votez pas, c'est faux. Il y a eu en 2019 130 demandes d'asile qui ont été faites dans notre pays. C'est 10 000 de plus que l'année précédente et 20 000 de plus encore que l'année précédente. Donc, il y a un discours et il y a des actes. Et la réalité, c'est que sur ces actes, on ne fait rien. En matière pénale, vous ne ferez croire à personne que le gouvernement agit pour la répression
Jordan
pénale aujourd'hui.
Je ne fais pas croire que je vous donne des chiffres quand vous me dites, attendez, Vous me dites rien n'a été fait, je vous dis 241 lieux fermés depuis 2018, donc des lieux de culte, des établissements associatifs.
Dont beaucoup qui ont rouvert d'ailleurs, dont beaucoup ont été fermés 6 mois et ont rouvert derrière.
Vous avez la liste, vous avez les
chiffres. Vous pouvez trouver la liste très facilement, mais si vous voulez faire croire aux gens qui nous écoutent que le gouvernement agit sur la sécurité et sur la politique pénale, je pense que pas grand monde ne va vous croire.
Et sur le projet Jordan Bardella de loi sur le séparatisme religieux, est-ce que vous vous abstiendrez également ?
Écoutez, là encore, face au défi qui est devant nous, vous rappelez l'ouverture il y a quelques jours du procès des attentats de Charlie Hebdo. Moi, je crois que les terroristes aujourd'hui ont gagné, puisqu'en l'occurrence, la liberté d'expression a été attaquée. Plus personne n'ose publier de caricature sur Mahomet, sauf effectivement Charlie Hebdo qui a décidé.
Sauf, ce n'est pas un détail quand
même. Publier.
Elles sont relayées,
on peut regretter,
vous le voyez sur les réseaux sociaux.
On peut regretter que très peu de médias les aient accompagnés, alors que c'est la liberté d'expression dans son ensemble. Je les ai relayés. Beaucoup d'élus, d'ailleurs, courageux, les ont également relayés.
Et beaucoup de citoyens, d'ailleurs, tout simplement.
Monsieur Macron nous propose une charte de la laïcité. Donc effectivement, les islamistes qui se sont attaqués ou qui ont participé du moins des attentats de Charlie Hebdo doivent effectivement trembler quand on leur dit que le président de la République va leur faire signer une charte.
Mais prévenir les dérives, Jordan Bardella, en conditionnant leur aide aux associations à la signature d'une charte, en quoi n'est-ce pas pertinent ? Est-ce que c'est mauvais de frapper au portefeuille ? Souvent, c'est efficace.
Il faut dissoudre aujourd'hui toutes les organisations qui ont un lien avec le fondamentalisme islamiste. Ces associations ont pignon sur rue. C'est vrai avec l'EIF, c'est aussi vrai avec le CCIF, avec lequel se complaît une grande partie de la classe politique, est une organisation islamiste qui a organisé, je vous le rappelle, en novembre dernier, une grande manifestation dans les rues de Paris qui a fait hurler Allah Akbar à 100 mètres du Bataclan avec avec Monsieur Mélenchon et tous ses amis d'ailleurs d'Europe Écologie Les Verts, de la France Insoumise, qui ont un peu la laïcité à géométrie variable et qui ont effectivement sombré dans le gauchisme culturel. Pour revenir à votre question précédente sur la politique pénale, nous défendons l'abaissement de la majorité pénale à 16 ans, la construction de nouvelles places de prison, le rétablissement des peines plongées. Et effectivement, on parlait de l'immigration. Il faut effectivement expulser les délinquants et criminels étrangers. Quand je vois que depuis janvier 2020, tous les actes délictuels qui ont été commis à Bordeaux sont à 44% le fait de mineurs étrangers non accompagnés, qui sont en réalité des clandestins, eh bien je me dis qu'effectivement il y a un lien entre ces deux politiques et que nous sommes les seuls en tout cas à avoir cette volonté de fermeté.
On vous entend beaucoup
et nous n'aurons
sur
pas la
sécurité, sur la délinquance. Pourquoi on vous entend si peu sur le programme économique de Marine Le Pen ? Est-ce qu'il y en a un ?
Parce que c'est vous qui posez les questions et que si
oui,
vous voulez aller sur le terrain économique,
c'est vous qui apportez les réponses,
nous y
normalement.
Allons. Si vous faites écho en tout cas au plan de relance, il fallait évidemment un plan de relance. Maintenant, je pense que ce plan de relance, il est sous-dimensionné. L'Allemagne a mis 200 milliards d'euros sur les TPE-PME. La France s'est contentée de miettes, 3 milliards d'euros pour nos très petites et moyennes entreprises. Il y avait une attente extrêmement forte.
En réalité.
Il y avait une attente extrêmement forte de la part de nos chefs d'entreprise qui ont été fragilisés durant la crise sanitaire. C'était d'exonérer, en tout cas, de charges sociales sur le second trimestre 2020. Ça n'a
Soyons
pas été
précis,
fait. Et je crois
Jordan
que c'était une
Bardella.
Mesure qui aurait rendu service à beaucoup de nos chefs d'entreprise.
Marine Le Pen dénonce le plan de relance. Elle dénonce en particulier les 40 milliards européens parce qu'il y aurait un donnant-donnant.
Exactement. Ça a été avoué par le ministre des Affaires européennes, M. Bonne.
Avoué, c'est-à-dire il y a une contrepartie.
Ils sont très clairs, c'est-à-dire que sur les 100 milliards d'euros de ce plan de relance, 40 milliards viennent de l'Union européenne.
Sait.
Ce que personne ne dit, c'est que sur les 40 milliards qui nous sont octroyés, il va falloir en rembourser 100 milliards. Donc en gros, on nous donne, il va falloir en rembourser deux fois plus. Et surtout, M. Beaune, le ministre des Affaires européennes, l'a dit dans un entretien à la presse écrite il y a quelques jours. Il le dit que ce prêt de l'Union européenne se fera en contrepartie d'un certain nombre de réformes, et notamment de la réforme des retraites.
Non,
et en réalité,
mais la Commission européenne ne l'impose pas.
Si, de facto, puisque en réalité que ce soit la réforme,
non, elle ne l'impose pas,
que ce soit la réforme
Bardella,
de l'assurance chômage. Oui, mais on peut être naïf. La réalité, c'est que la réforme de l'assurance chômage, comme la réforme des retraites, comme une grande partie des lois qui sont votées à l'Assemblée nationale et qui sont, à mon sens, nocives aux intérêts français, sont votées au Parlement européen.
Elle n'est pas un peu grosse, toujours la même.
Lorsque j'entends le président de la République nous expliquer qu'on va se réinventer, qu'il nous parle maintenant de relocalisation, de souveraineté, et que je vois l'Union européenne qu'il soutient ouvrir de nouvelles négociations pour un traité de libre-échange sur les investissements avec la Chine, je me dis qu'encore une fois, on est en décalage entre ce qui est dit, ce qui est promis aux Français et ce qui est fait dans
et
la
oui,
réalité.
Il est où le contre-plan de relance du Rassemblement national ?
Il est dans les propositions que nous avons formulées.
Formulées depuis quand ? Depuis dernière présidentielle, il y a eu quand même une grave crise depuis.
Oui, depuis plusieurs mois, depuis plusieurs semaines. Je vous rappelle qu'on a été les premiers, dès le mois de janvier, à demander la suspension des liaisons aériennes avec des pays qui étaient manifestement des pays foyers de l'épidémie. Beaucoup de journalistes, beaucoup de politiques nous riaient au nez à l'époque en nous disant que ça ne servait à rien. J'ai vu qu'on avait mis en place cette mesure très très tard, que nous réclamions pourtant très très tôt. Et je vois que nous avons demandé, dès le confinement, que soit alloué à l'ensemble de nos chefs d'entreprise, 1500 euros par TPE-PME, plus 1000 euros par salarié. C'était une mesure de bon sens qui coûtait 10 milliards d'euros et qui aurait permis de
Jordan
simplifier
Bardella,
les contraintes administratives.
Sur le plan de relance, quand même, j'insiste, et sur les contreparties, pour l'instant, c'est faux, ce n'est pas prouvé. C'est par des taxes européennes vis-à-vis des pays hors Europe et une contrepartie le paiement évidemment de ce remboursement de 40 milliards, et ce n'est pas la réforme des retraites comme vous le dites.
Si, c'est en tout cas l'aveu du ministre des Affaires européennes. Alors peut-être vous êtes mieux renseigné que le gouvernement et que le ministre des Affaires européennes qui va être en charge d'exécuter cette politique.
Vous avez
je lis juste le ministre des Affaires
européennes
qui nous dit auprès de vos confrères il y a une semaine l'octroi des 40 milliards d'euros se fera avec un certain nombre de contreparties, dont la première des contreparties qui sera la réforme des retraites. Il y a eu beaucoup de mobilisation populaire contre cette réforme qui est à mon avis une mauvaise réforme.
La Commission
qui
consiste à faire la réforme mais ne l'impose pas.
À faire travailler davantage. La preuve, madame, c'est que nous avons transmis à peu près tous nos leviers de souveraineté à l'Union européenne, que c'est l'Union européenne qui décide de notre politique économique, que c'est l'Union européenne qui décide de nos accords migratoires, par exemple, puisqu'elle a aujourd'hui la main sur la maîtrise de nos frontières. Et en tout cas,
Il n'y a pas de preuve directe comme quoi la réforme des retraites est inscrite noir sur blanc comme une contrepartie du plan de relance
dans
des 40 milliards.
Dans les textes,
ici,
elle est inscrite, elle est inscrite noir sur blanc.
On verra alors.
Depuis le début, j'ai l'impression qu'il y a un éléphant dans le salon que vous ne le voyez pas, mais en tout cas, elle est inscrite dans les textes de la Commission européenne.
Je pense que
nous sommes des lanceurs d'alerte et c'est peut-être pour ça que les Français nous ont portés en tête des dernières élections européennes.
Vous serez en tous les cas le directeur de campagne, on l'a compris ? C'est bien
je serai directeur de campagne des élections régionales qui auront lieu au mois de mars.
Et plus si affinité des présidentielles ?
Et nous verrons pour l'élection présidentielle, c'est Marine Le Pen qui fera son choix. En tout cas, plus nous nous approchons de l'Élysée, plus nous nous y préparons. Et en tout cas, quand je vois le contexte sanitaire ou économique, je me dis que beaucoup des constats que nous avions faits très tôt sont aujourd'hui plébiscités par les Français. Nous avons beaucoup de mesures, notamment de mesures qui ont été présentées par Marine Le Pen dans son grand discours de rentrée hier.
Merci Jordan Bardella d'avoir répondu à nos questions. Bonne journée à vous et à nos auditeurs.